Il y a 10 ans, j'ai reçu un précieux conseil d'une personne qui me disait « La vente est une méthode que tu dois savoir adapter et dérouler de A à Z face à ton client. » J'ai reçu ce conseil de la part d'une personne qui a vécu en Asie, qui a développé des business aux US, en Europe, au Japon. Et aujourd'hui, j'aimerais justement challenger avec cette même personne sa vision par rapport à cette méthode pour voir si elle est universelle et si elle marche sur tous les marchés et dans n'importe quel pays. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Jérôme Cohen. Comment ça va, Jérôme?
Merci Ariel, écoute, ça va, donc je te retourne un peu le compliment. Hein. J'ai rencontré il y a 10 ans un serial entrepreneur, ouvert d'esprit, intelligent, cultivé.
Thanks. J'ai pris pas mal de. J'avoue, c'est que tu m'as donné beaucoup de conseils à l'époque, notamment lire. Alors, ça, je ne l'ai pas tout de suite pris.
Ouais.
Par contre, rencontrer beaucoup de gens, ça, je l'ai gardé. Je rencontre tous les jours au moins une personne que je ne connais pas.
Super, c'est canon. On parle souvent d'IA, c'est un bon moyen de commencer la conversation. Moi, je suis plutôt sur l'intelligence humaine,
Ok.
c'est-à-dire comment tu arrives justement à prendre le meilleur de l'humain et effectivement utiliser l'IA, mais utiliser surtout l'humain et le rendre meilleur et le rendre collectif. C'est un peu ça la méthode que j'aime bien et qui marche.
On va voir justement, on va voir, on va la tester, on va la challenger sur le ring.
Ouais.
Tu te présentes rapidement en 1 minute. C'est quand même un joli palmarès, un track record qui parle pour toi. Et ensuite, on rentre sur le premier round directement.
Super. Donc moi, j'ai Jérôme Cohen. Je suis Head of Sales chez GoOne aujourd'hui pour l'Enterprise pour la région EMEA. Voilà, j'ai 25 ans d'expérience. J'ai effectivement travaillé avec la Chine. J'ai bossé chez LinkedIn pendant 5 ans où j'ai ouvert le secteur public. J'ai créé le bureau d'Avature en France. Voilà, j'ai, on va dire, des expériences qui sont toujours un peu similaires. Tu commences d'une feuille blanche et tu arrives à créer de la valeur.
Ok, on va voir comment tu as fait du coup. On commence par le premier round.
Ouais, avec plaisir.
Premier round, c'est un sujet qu'on parle peu parce que malheureusement, on ne rencontre pas assez de bons sales dans ce secteur, en tout cas de sales. C'est le B2G, Business to Government. Donc, comment tu arrives justement à vendre à des administrations françaises? Qui plus est, ce qui va m'intéresser, lorsque en plus, il y avait encore Viadeo à l'époque ou pas?
Absolument.
Il y avait encore Viadeo
Ouais.
et toi, tu étais sur LinkedIn et tu étais là pour ouvrir. Donc, du coup, premier round, la vente en B2G. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait justement chez LinkedIn
Ouais.
pour ouvrir le B2G et comment tu as mis en place la méthode en question pour atteindre les résultats?
Donc déjà, quand on m'a proposé le gouvernement chez LinkedIn, c'est pas un truc qui m'a vraiment, disons, excité au départ. Parce qu'étant plutôt international, plutôt B2B, plutôt anglo-saxon, je me suis dit, voilà, c'est très local, très, disons, complexe.
Ouais.
Et après avoir réfléchi, je me suis dit, bah, finalement, voilà, je ne connais pas bien la France, je ne connais pas ce secteur, j'ai peut-être des a priori. Et du coup, bah, je vais me plonger dedans, en fait. Et donc, moi, je suis un adepte de la méthode Customer Centric Selling, qui est un peu la méthode un peu qui m'a transformé et qui a fait qui je suis aujourd'hui. Et donc, t'es dédicace à Jean-Marc Bello, qui est plus ici, qui est plus de ce monde, mais qui était un peu le gourou de cette méthodologie en Europe. Et en fait, donc déjà, j'ai essayé de comprendre c'est quoi le secteur public, comment il est divisé. Voilà, il y a quoi? Il y a les EPIC, il y a les EPA. Les EPIC, c'est RATP, SNCF. Les EPA, c'est les grandes agences. Il y a les collectivités locales, les grandes mairies, les régions. Donc j'ai déjà essayé de cartographier le marché.
Ok, donc vision macro dans un premier temps, t'arrives, vision macro.
Macro,
Ok.
c'est quoi le potentiel? Il y a 33 000 mairies. C'est quoi le contexte? C'est quoi le terrain de jeu? C'est un peu la méthode de base, hein, terrain de jeu. Tu parles d'un secteur. C'est quoi le secteur? La deuxième approche, c'est comment tu structures le même secteur. Donc comment tu fais en sorte d'avoir tout dans Salesforce, bien structuré, bien segmenté, mais rattacher les bonnes filiales, la Caisse des dépôts. Bah, il y a combien de filiales qui sont rattachées à la Caisse des dépôts, et
La
ainsi de suite.
cartographie du coup.
Absolument.
Donc vraiment macro-micro. Donc ce que je comprends, c'est que tu arrives tu regardes c'est quoi le terrain de jeu, donc comment est structuré le secteur que je dois attaquer,
Ouais.
et ensuite tu regardes donc comment il fonctionne finalement.
Alors, donc la première étape, c'est structuration. Deuxième étape, c'est comment tu définis tes priorités. Donc, il y a des mèches longues, des mèches courtes, des mèches moyennes.
OK.
Bah, les ministères, c'est plutôt long. Les collectivités, c'est plutôt court, mais c'est plutôt des petites valeurs. Et les EPIC, c'est entre les deux. Donc, comment tu arrives à avoir un mix de ton effort pour faire en sorte de bien d'avoir une part pour la soif, mais aussi d'avoir de quoi manger à ZAP. Donc, ça, c'est au niveau de la méthode. Et après, tu as besoin de te confronter à la réalité. C'est quoi? Comment ils pensent, les gens du secteur public? C'est quoi leurs enjeux? Et donc, très vite, je suis allé à la mairie de Roubaix, la mairie de La Roche-sur-Yon, je suis allé voir les régions, je suis allé voir les collectivités, et je me suis confronté pour comprendre un peu c'est quoi leurs enjeux. Ils utilisent quoi? C'est quoi leur process de validation? Donc, j'avais besoin de ce temps de jachère, de bien analyser la situation et de me mettre dans la peau d'un agent public.
Et ça, c'est donc ce que de mémoire, en fait, ce que je me rappelle, c'est qu'effectivement, tu avais mis à peu près 2 mois où tu n'avais rien closé.
Ouais.
Et c'était ces 2 mois-là qui t'ont permis de faire le Sherlock Holmes du marché public, finalement.
C'est une mini-étude de marché en fait à mon niveau, mais essayer en fait de mettre les lunettes d'une personne du secteur public et de savoir c'est quoi son rôle aujourd'hui, c'est quoi ses enjeux, c'est quoi ses problématiques. Et c'est vrai qu'on parle souvent de sales. Un bon sales, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui va en fait, lorsqu'il va voir le client, il va se dire, si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Si j'étais à sa place, quels sont mes enjeux? Si j'étais à sa place, quelles sont mes épreuves? Donc c'est vraiment de se mettre dans la peau de l'autre. Mais au-delà du business, je pense que dans les relations humaines, c'est penser à l'autre, écouter l'autre, être attentif, être bienveillant. C'est ne pas penser qu'un client, c'est une cible. Un client, c'est un patient.
Moi, je dis que c'est un partenaire. C'est lui et moi, on va justement
Donc,
travailler ensemble pour résoudre son problème. Mais en fait, j'ai autant besoin de lui qu'il a besoin de moi.
alors c'est un partenaire une fois que tu arrives dans une logique de collaboration.
Ouais.
Mais avant ça, c'est un patient. C'est-à-dire que tu vas le voir, en fait, il a un problème ou pas, et comment tu arrives à détecter son problème? Et c'est comme quand tu vas chez le médecin, en fait, quand tu vas chez un médecin, au début, il ne t'ausculte pas, en fait. Au début, il te regarde, il discute, il va poser des questions. Quand il t'ausculte, il sait déjà ce que tu as. Ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'un bon commercial, c'est quelqu'un qui va chez un client qui est prêt à se mettre à nu, qui est prêt justement à s'ouvrir à l'autre, et qui est très bienveillant dans le sens où il se dit, voilà, ben, si je me mets à la place du client, est-ce que je ne vais pas trouver une problématique que je vais l'aider à résoudre?
Du coup, je switch un petit peu. Comment tu fais aujourd'hui sur des sales qui n'ont plus vraiment envie d'aller voir les clients ou qui aiment bien faire des démos derrière leur écran? Enfin.
Alors ça, c'est la méthode, la méthodologie. Donc moi, je suis un adepte de la méthodologie, toujours CCS. Donc, une première disco avec le SDR, une deuxième disco avec les I, et après, tu fais la démo. Mais je ne suis pas un adepte de la démo, c'est-à-dire que justement, je suis plutôt un adepte de tu disco bien, tu comprends les besoins du client, et après, tu lui montres en quoi ton produit répond à son besoin. Mais en fait, en général, celui qui achète, ce n'est pas celui qui va l'utiliser. Donc, c'est plus comment tu arrives à faire comprendre que ton outil répond à son besoin.
Il y a double disco, t'as pas peur d'être en overlap justement avec la première chose, voire potentiellement ennuyer le prospect qui dit, attendez, j'en ai déjà parlé avec une personne avant de votre société et là j'ai l'impression que vous ne communiquez pas entre vous, quoi.
Ouais. Très bien. Donc, c'était une bonne question. La deuxième disco, c'est plus une disco de préparation à la démo. Donc, l'approche est différente. C'est plus en fait. Voilà, j'ai besoin d'un quart d'heure pour bien préparer la démo. Je veux savoir ce que vous aimeriez voir. C'est quoi, on va dire, les choses qui vont pas en termes de produit aujourd'hui. Comme ça, la démo, elle est hyper sur mesure et on va pas faire une autre démo sur un truc qui est hors sujet. Ce qui est souvent le cas du sales. Le sales est très centré produit, centré boîte où il travaille, mais il est très peu à l'écoute du client et il est très peu dans une approche de réponse à un besoin.
Ok. Le deuxième round, c'est sur le mindset sales. Tout à l'heure, tu parlais justement d'une méthode, effectivement, cette méthode universelle qui marche. Mais est-ce que ça marche pour tout le monde ou effectivement, le commercial doit adapter son état d'esprit par rapport à cette méthode-là ou être dans un certain état d'esprit. Tu vois, c'est comme si je te disais, ouais. Si je fais du yoga et que je pense à au rendez-vous que je vais avoir derrière, tout ça, bah en fait, je vais pas être dans le moment et donc du coup, je pourrais pas vraiment apprécier pleinement les mouvements que je vais faire. Je parle de yoga, mais sur la boxe, c'est pareil. Est-ce que le mindset sales doit être pris en compte par le directeur commercial, par exemple, qui va insuffler cette méthode-là et insuffler l'énergie à son équipe pour que justement ça puisse matcher et que le cocktail puisse être délicieux.
Donc c'est une très bonne question et je la répondrai avec Sun Tzu qui est le plus gros stratège de tous les temps.
Ouais.
Nourris tes troupes, elles te suivront jusqu'aux vallées les plus profondes. C'est vrai que le rôle de leader, c'est pas un rôle en fait, en mon sens, de showman. Ou c'est pas un rôle de, c'est pas un statut en fait. C'est quelqu'un qui va prendre les gens et les monter et les faire monter. Et comment tu fais monter les gens en fait? Comment tu fais monter les sales? Déjà, tu leur donnes accès à la connaissance. Donc, tu le nourris en livres, en podcasts, en savoir.
Comment tu t'assures que c'est fait? Tu vois, par exemple, je prends un exemple. Dans mon ancienne entreprise, ouais. On faisait d'autres podcasts. Il n'y a aucun de mes sales qui écoutaient les podcasts, ni les nôtres, ni d'autres d'ailleurs. Il y avait une bibliothèque avec une tonne d'ouvrages. Rien n'était lu. On pouvait partager des articles. Rien n'était fait non plus. On faisait des rex. Ça restait sur son téléphone. Enfin, tu vois, comment tu fais pour justement faire prendre conscience de l'importance de s'enrichir intellectuellement sur la culture commerciale pour soi déjà et pour s'améliorer dans ses résultats.
Donc déjà, tous les lundis matin dans ma réunion commerciale, j'ai deux axes. J'ai l'axe grand stratège, donc Sun Tzu, Clausewitz, donc toujours Napoléon. Je prends toujours des Michael Jordan, des gens qui sont successful. Et j'essaie de prendre en fait des choses qu'ils mettent en place et comment on peut l'adapter côté sales. Ça, c'est numéro un. Deuxièmement, je donne des feedbacks sur ce que moi j'ai lu la semaine dernière ou ce que j'ai écouté. Et donc j'essaie de les nourrir en info, nourrir en thématique, pour effectivement faire en sorte que tu leur donnes le goût à la connaissance et à l'agilité, parce qu'on ne l'a pas parlé, mais le rôle sales, c'est un rôle qui évolue tous les jours. Donc il faut avoir un esprit, un état d'esprit qui est un état d'esprit de start-up. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plus...
Peu importe la taille de la boîte.
Peu importe la taille de la boîte et peu importe le sales.
Et c'est-à-dire que je rebondis, excuse-moi, ouais. Jérôme, je rebondis, ouais. Sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, tu dois avoir cette agilité, ok, donc d'une startup. Comment tu fais pour avoir cette agilité de startup lorsque tous tes ordres viennent des US? Tu vois, par exemple, ouais. On a vu dans ton track record, tu as implémenté une solution des US, ouais. En France, puis en Europe. Donc, les ordres, ils viennent de là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, la mentalité n'est pas forcément la même que celle de la France. Comment toi, tu arrives à justement concilier deux et impliquer ton équipe pour atteindre ces objectifs?
Donc, tu prends le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que tu prends la structure américaine, mais tu gardes l'approche locale de la culture, des enjeux, de la méthode de pensée. Et donc en fait... si tu es autonome et si tu connais bien ta méthode, les Américains en général ils te laissent faire, c'est-à-dire que c'est pas à eux qui vont te dire comment en fait adresser les Français. En revanche, si toi tu maîtrises bien ta cible, si tu connais bien ses enjeux, si tu connais bien la mentalité, tu adaptes en fait. Donc la méthode, c'est dans un cadre, donc c'est plutôt positif, et après tu déroules. Donc il faut pas être trop dépendant du global en fait. Moi, je suis plutôt sur une méthode qui s'appelle la méthode locale. Donc, tu prends le global, mais tu l'adaptes en local.
OK.
Et donc, en fait, avec des spécificités locales.
OK. Et là, du coup, l'agilité dont tu parlais par rapport à tes équipes, ouais. Comment ça se traduit? Comment, justement, toi, tu leur transmets cette flexibilité? Et dernière question, ouais. Après, je m'arrête, je te laisse parler. Ouais. Comment tu fais, justement, est-ce que cette... cette flexibilité, cette méthode-là, elle est entendable et réalisable par toutes les générations. C'est-à-dire aussi bien des personnes qui ont 50 ans, 40 ans ou la génération Z, par exemple.
Ouais. Et l'agilité, c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce qu'en fait, je compare ça un peu au jeu d'échecs. C'est combien de coups tu connais et combien de coups tu répètes. Donc, et les coups sont jamais les mêmes et les situations sont jamais les mêmes. Donc comment tu arrives en fait à avoir un modèle de pensée qui est suffisamment agile pour que d'une situation que tu n'as jamais rencontrée, tu arrives en fait à prendre une ancienne situation et l'adapter à une nouvelle situation. Donc et quand je parle d'agilité, c'est ça en fait, c'est d'avoir vu suffisamment de situations et suffisamment de contexte pour l'actualiser. Maintenant, tous les 16 n'ont pas eu ce vécu. Et donc c'est à toi en tant que leader de monter sur les deals, de venir en discovery, comprendre le client et justement expliquer aux sales ce que toi t'as compris et comment tu verrais les choses, l'aider à closer. Donc je pense que le rôle de leader, il a évolué aussi dans le sens où c'est plus une personne sur sa tour d'ivoire qui va justement donner des ordres.
Est-ce qu'on n'est pas passé de manager à leader du coup?
On est passé de manager avec la casquette,
ouais,
à leader hands-on qui va en fait aller avec son équipe combattre Napoléon qui va sur le pont d'Arcole et qui va combattre les Italiens. Donc c'est, pour moi, le manager moderne, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui montre l'exemple, c'est quelqu'un qui est hands-on, c'est quelqu'un qui n'a pas de fierté de closer, pas closer, est-ce que je suis au terrain, pas le terrain. Donc c'est quelqu'un qui est tacticien mais stratège. C'est quelqu'un qui est aussi caméléon, donc l'agilité d'être à la fois stratège, à la fois tacticien, à la fois sur le terrain, à la fois sur le
est-ce que tu risques pas d'être médiocre en étant tout ça? Je m'explique, c'est-à-dire médiocre pour moi, ça veut pas dire pas bon, ça veut dire moyen. Est-ce que tu peux vraiment être bon en strat, en tactique, être aussi sur le terrain et aussi arriver à enrôler tes équipes? Est-ce qu'il n'y a pas... est-ce que c'est pas trop de choses pour être excellent quelque part, tu vois?
Donc c'est une bonne question.
Moi, la peur que j'ai quand, ouais, tu me dis ça, tu me parles de Napoléon et je ne pense pas qu'il y ait des Napoléons tous les jours. Napoléon, il avait des points forts. Je pense qu'il avait d'autres points faibles également.
Ouais.
Et sur ces points faibles, c'est là où il s'est fait torpiller.
Donc c'est
maintenant, le risque que moi je vois en essayant d'être bon partout, c'est d'être excellent nulle part.
Donc c'est une bonne question. Donc déjà, ça implique avoir fait le rôle en soi. Je m'explique, un chef d'orchestre, il connaît le violon, il connaît la guitare, il connaît les partitions. Donc cette approche tactique, stratégique et d'agilité, elle n'est possible que si tu as fait toutes tes gammes.
Ouais.
SDR, sales, manager, VP, France, international. Donc tu as raison, c'est pas simple. Et ça demande un critère et un degré d'excellence qui est juste incroyable. Ça demande justement de jouer la Ligue des Champions. Mais là, je te parle de Ligue des Champions, je ne te parle pas de Ligue 1. Donc, si tu vises les étoiles, il faut être suffisamment musclé pour être tactique, stratégique, empowerer les gens, savoir la rigueur, la structure, connaître bien Salesforce, avoir de l'empathie pour les gens et vouloir les faire évoluer, t'entourer de gens compétents. Donc, c'est une potion magique, mais qui n'est pas facile à avoir. Ça demande de l'expérience, ça demande de l'écoute, ça demande de l'humilité. Donc, et c'est quelque chose qui est évolutif, c'est-à-dire que parce que quelqu'un a ces qualités-là aujourd'hui, qu'il les aura demain. Donc, comment tu arrives à être head of the game, comme disent les Américains, pour avoir toujours ce temps d'avance, de pouvoir en fait être bankable. Et bankable, c'est quoi? C'est que tu as 3 millions d'ARR à faire en 9 mois, avec une équipe de 3 personnes, tu arrives à le faire parce que tu as les bons ingrédients, la bonne méthode, tu empowers les gens. Et que finalement tu délivres. Donc, c'est ça la méthode.
Ok. Nickel.
Je suis passionné, tu me connais.
Ah, je sais.
Non, c'est bon, je vais.
Le troisième round, on va parler justement des ingrédients. C'est quoi les bons ingrédients pour que ta méthode elle prenne et comment je vais les chercher? Comment je les fais mûrir?
Ouais.
Tu vois? Et comment justement je m'aperçois que c'est pas les bons ingrédients et que j'arrive à les jeter assez tôt pour éviter de perdre du temps.
Ouais. Donc c'est intéressant.
Plus une bonne question. C'est devenu intéressant.
Non, c'est une question qui m'intéresse. Ah. Ce que je voulais dire. Mais il faut commencer par la stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est comprendre le terrain de jeu, comprendre le contexte, comprendre la position de valeur, comprendre le client, comprendre la boîte, comment elle fonctionne, comprendre
stratégie,
l'interaction.
C'est un ingrédient. Ça, c'est l'ingrédient, la stratégie?
Donc, l'ingrédient, c'est au départ de bien stratégiser sur le go-to-market, sur en fait, combien de pipes tu dois créer pour arriver au résultat, combien d'ops, c'est quoi ton panier moyen, c'est quoi ton taux de conversion. Donc, c'est arriver en fait à avoir un état des lieux de ce qu'il y a, définir ce que tu aurais besoin. Donc, c'est quoi ton
ça,
but.
C'est le deuxième ingrédient.
Premier ingrédient, c'est tu définis la règle du jeu, en gros.
Okay.
Deuxième ingrédient, tu définis un peu ton objectif, tes objectifs. Et troisième ingrédient, c'est comment tu exécutes.
Comment tu fais pour que tes objectifs soient raisonnables et compatibles avec ton terrain de jeu et que justement tu arrives derrière à amener tes sales. Tu vois, moi,
Ouais.
Il y a différentes phases. On va prendre différentes phases. Tu vois, donc, sur une phase, on va dire, de market fit au début, tu n'as pas encore assez de track record, donc d'expérience pour pouvoir te dire, là, on va mettre un objectif à X alors qu'il devrait être peut-être un peu plus bas ou un peu plus haut. Donc, tu vas potentiellement reward trop ou pas assez, ou tu ne vas pas avoir la bonne force commerciale. Comment tu fais? Ou potentiellement, tu n'as pas bien compris encore les règles du marché, tu n'as pas le vrai panier moyen, tu n'as pas tapé tous les ICP. Tu vois, je fais exprès
donc, c'est bien parce qu'en fait, donc, tu vois l'existant.
Les phases, elles sont différentes.
Tu vois l'existant et tu vois un peu ce qui est logique et là où tu penses qu'il y a il y a un truc à gratter. Donc, par exemple, tu te rends compte que, je ne sais pas moi, ils ne font pas d'outbound. Tu dis, l'outbound, c'est un truc que tu peux faire.
On en parle justement, l'outbound, c'est indispensable.
Indispensable. Donc, moi, quand je suis arrivé chez Corp Academy, on était à 100% d'inbound et après, on était à 50-50. Donc, c'est là où tu peux travailler sur des leviers-là, les paliers moyens.
Comment tu as justement changé un peu de sujet? Je fais exprès de te...
Ouais, très bien.
Comment tu fais justement pour passer de 100 à 50 sur une mentalité qui n'est pas du tout celle de je vais retrousser mes manches, je vais prendre mon téléphone et je vais y aller. Et pas non plus cette méthodologie de cartographie en amont, qui est mon ICP, potentiellement, je pense que vous avez travaillé en ABM, account-based management.
Marketing. Alors, effectivement, Corp, c'était assez marrant parce qu'ils avaient beaucoup d'inbound et en fait, tous les sales traitaient les inbound. Donc, moi, je suis arrivé, j'ai dit, voilà, il vous faut des SDR inbound, mais il vous faut aussi des SDR outbound. Donc, on a créé deux postes d'SDR inbound, deux postes d'SDR outbound. Ce qui fait en fait qu'on a déjà, on a filtré l'inbound, donc on a fait en sorte que ce qui arrivait aux sales était très quali, parce qu'avant, ils géraient beaucoup de choses. Deuxièmement, ça a permis de faire un focus sur l'outbound. Et du coup, de faire que de l'outreach avec de l'ABM, avec des events, avec du targeting via RFR, là où j'ai investi, on a investi.
Ensemble, ouais.
Donc voilà, de mettre la petite puce à l'oreille, de se dire, voilà, il faut qu'on ait dans une stratégie go-to-market une partie importante de l'outbound.
Okay.
Et donc, dans la structure, ça a joué vachement la structure commerciale que j'ai mis en place.
Je refais un petit focus sur cette partie inbound, outbound, qui est pour moi un peu le nerf de la guerre, surtout sur les temps qui courent, où on arrive plutôt dans les vaches maigres, où y a beaucoup moins de budget, où les fonds ont arrêté de mettre de l'argent pour faire de la R&D, et on demande aux entreprises, et principalement aux head of sales, d'atteindre les objectifs, voire de les surpasser. Parfois, c'est même vital.
Oui.
Comment, toi, sur une boîte qui n'a pas cette philosophie, finalement, de la haute bande, tu arrives à l'impliquer. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas trop au fait de... Enfin, je te crois quand tu me dis que tu as pris juste deux sales, mais en fait, ce n'est pas parce que tu prends deux sales d'out bande que ça va changer l'histoire. C'est-à-dire que pour moi, c'est une philosophie.
Ouais, c'est une philosophie. Donc.
Si la boîte elle a jamais fait d'out bande, déjà, juste un truc tout bête, ça commence à call sur les plateaux, ça commence à... Tu vois,
donc c'est intéressant.
Ça perturbe, tu vois.
En fait, donc déjà, moi, je suis arrivé en septembre chez Corp et en juin, j'ai commencé à travailler sur le mapping des comptes. Donc, ça commence par ça, en fait.
Ok, pas de mapping de compte avant.
Tu prends le compte LVMH.
Ouais.
Comment tu arrives à créer toutes les filiales, les rattacher à la compte parent? Comment tu arrives à définir en fait les 100 comptes prioritaires en France? Donc, la outbound, ça signifie être excellent dans le terrain de jeu.
Moi, je suis d'accord.
C'est quoi ton terrain de jeu? C'est quoi ton persona? C'est quoi ta proposition de valeur? Ta value propre? Mais ta value propre, elle est différente selon la personne que tu as en face.
Décisionnaire, bien sûr.
Si c'est un DRH, si c'est un responsable learning, la proposition de valeur, elle n'est pas même si c'est un directeur IT. Donc, ça veut dire comment tu arrives aussi à avoir le bon discours en face de la bonne personne. Et ça veut dire aussi comprendre ton secteur. Et donc, les ingrédients, c'est le mapping. Deuxièmement, c'est la proposition de valeur, quelle proposition de valeur en face de quel persona. Et troisièmement, c'est quel axe, c'est-à-dire 16 nav, l'ABM, quel outil tu utilises, et aussi quel incentive tu mets en place.
Sur les rewards.
Sur les rewards, sur tout ce qui est recognition. C'est vrai qu'on parle de reconnaissance. C'est vrai que beaucoup de sales sont en manque de reconnaissance. Comment tu arrives en fait à les mettre en avant lorsque...
C'est un ingrédient, la reconnaissance.
Absolument. L'humain.
D'accord. Après,
je pense que la méthode que j'applique, c'est une méthode qui est basée sur la bienveillance et l'humain. Et prendre le meilleur des gens.
J'ai du mal à définir bienveillance. Malheureusement, c'est un mot qui était beaucoup trop galvaudé sur LinkedIn. Je demande bienveillance à 4 personnes différentes. C'est comme bien-être au travail. Chacun a sa propre définition. C'est quoi la tienne de bienveillance et en quoi elle a une notion avec le business ?
Donc, un exemple. Il y a un sales qui a travaillé longtemps sur un compte et je l'avais commit auprès de la direction US et il n'a pas signé, c'est un gros compte. Donc, il m'appelle et il me dit, voilà, je suis désolé, le compte n'a pas signé. Je lui dis, mais c'est pas grave. Ok, on va apprendre. Je veux comprendre ce qui s'est passé. On va faire en sorte de bien on va dire, communiquer en interne avec pourquoi ça ne s'est pas passé. Et on va relever les manches et ça va aller. Et donc, la bienveillance, c'est de ne pas penser qu'un sel, c'est un fusible et ne pas penser qu'il veut mal faire. En fait, un sel, il veut bien faire. C'est que des fois, il n'a pas vu venir le truc. Des fois, tu n'as pas su aussi lui donner les bons outils. Des fois, le client, il est compliqué. Donc, la bienveillance, c'est de pas juger un sales sur un échec, sur une situation, mais déjà t'assurer que tu as fait tout le possible pour l'accompagner vers le succès. C'est ça la bienveillance. C'est souvent, les sales, c'est des fusibles. Et moi, j'aime pas ça. Je préfère, en fait, me dire à un sales qui est dans le dur, tu l'accompagnes, tu l'aides. S'il n'est pas fait pour être sales, tu l'accompagnes pour faire autre chose. Et ça, c'est une autre question. Donc souvent, c'est le cas. Souvent, il n'achieve pas et il n'est pas sales. Et du coup, tu dis, voilà, comment je peux t'aider à être CSM, comment je peux t'aider à être... La bienveillance, c'est ça, en fait. C'est dire les choses quand ça ne va pas, mais d'être là quand ça ne va pas. Ça, surtout. De pas en fait, lâcher la personne lorsqu'elle est au fond du trou. Parce que justement, la beauté de la chose, c'est que rien n'est irréversible. Et en fait, il faut juste bien comprendre le diagnostic aussi du sales. Où ça va pas ? Est-ce qu'il disco mal ? Est-ce qu'il n'est pas la bonne personne ? Est-ce qu'il n'est pas sur le bon secteur ? Donc, il y a souvent une raison. Et donc, ce n'est pas aussi simple que dire que c'est un bon ou un mauvais sales. Donc, déjà, je trouve que c'est simpliste comme pensée. Mais je trouve aussi que ça crée aussi une notion de stress et de... et d'inquiétude qui n'est pas positive pour le business. Donc, tu donnes confiance à ton sales, tu l'aides à achiever, tu vas sur les calls, tu te fais ton avis sur la question. Et si vraiment il n'est pas fait pour sales, tu l'accompagnes ailleurs. Pour moi, c'est ça la bienveillance. C'est ne pas juger trop rapidement et ne pas servir de... qui servent de fusible.
Ok. On va parler du coup toute la partie management, notamment lorsque tu es un head of ou un CRO et que tu dois embarquer tes équipes. J'aimerais bien, pour comme première question, nous dire ce que toi tu penses du PIP aujourd'hui et comment tu fais en sorte que le PIP marche ou ne marche pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, le PIP s'appelle un placard et que c'est juste un déclencheur de ciao bye bye. T'en penses quoi ?
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors, il y a un point qui m'a intéressé dans la question que tu as posée. C'est la méthode, c'est comment tu insuffles la motivation aux sales. Et moi, je suis un adepte de la pensée positive. Et depuis que je l'ai appliqué, je t'avoue que ça fonctionne à 99,9%. En fait, quand tu es positif, les choses sont positives. Quand tu es négatif, les choses sont négatives. Et en fait, le karma, ou tu l'appelles comme tu veux, il s'ouvre lorsque tu vois les choses positivement et lorsque tu fais du bien autour de toi. Et j'y crois fort et ça marche. Donc voilà, à tous ceux qui écoutent, vous êtes aussi un ingrédient de la réussite. Il n'y a pas que le contexte.
Napoleon Hill.
Absolument. Et après, sur le PIP, je ne suis pas un gros adepte du PIP, parce que la probabilité qu'une personne, en 2 mois, elle relève un challenge qui est insurmontable, pourquoi elle arriverait à faire ça en 2 mois quand elle n'a pas fait ça en 1 an? Donc, le PIP, c'est déjà trop tard. Le PIP, c'est un plan de départ ou un plan, pas de départ, je dirais pas, mais en tout cas un plan vers la sortie. Moi, je suis plus vraiment de bien comprendre, et donc d'où la notion de hands-on, qu'un manager comprenne très tôt ce qui ne va pas. Et pour moi, c'est ça.
Les outils que tu utilises, du coup, en sales enablement, sans faire forcément de promo là-dessus, mais toi, tu as des outils que tu utilises pour faire monter en compétence tes équipes. Est-ce que tu es sûr qu'ils les utilisent ou pas? Tu vois, qu'est-ce que tu fais s'ils ne les utilisent pas?
On a des outils, mais on va dire les outils, c'est indispensable, mais ce n'est pas pour moi la base. La base...
Je te coupe.
Ouais.
Je vois de plus en plus, justement, aujourd'hui, de sales dire « on n'a pas les bons outils, c'est pour ça qu'on ne close pas ». Tu en penses quoi de ça?
Non. Moi, je pense que c'est une question de philosophie, de stratégie, de méthode de pensée. Et c'est un peu comme la conduite. Quand tu as eu ton permis, je passais, tu as ton permis.
Ouais.
Ben, en fait, quand tu conduis au départ, la première année, tu ne sais pas vraiment conduire, en fait. Tu n'as pas intégré les réflexes, Un sel, c'est un peu ça. C'est quand tu fais de la haute bande, ben, tu ne vas pas tout de suite comprendre les bons réflexes. Et donc, c'est comment toi, en tant que leader, tu arrives à lui dire, voilà, travaille sur la proposition de valeur. Travaille sur le discours. Comment tu arrives en deux phrases à expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien de ton concept ce que tu fais. Et donc, il y a cette notion d'alimenter le sales en méthode, en discours, en structure, pour lui donner les armes de faire de la outbound. La outbound, c'est complexe. Tu parles à quelqu'un qui ne connaît rien, tu parles à quelqu'un qui est sollicité souvent, qui est retargeté, comment tu arrives à faire la différence? Et pour moi, c'est... Tu arrives à vraiment définir ta proposition de valeur versus son besoin. Donc, par exemple, notre solution permet de 1. Réduire les coûts, 2. Diminuer le churn, 3. Augmenter la productivité. Et donc, il faut que ce soit un message qui soit clair, simple et adapté.
Adapté, c'est ce que je veux dire.
Donc, c'est ça la difficulté. C'est pas... En fait, tout le monde peut faire de la outbound, mais c'est juste comment tu as les résultats derrière. Comment tu arrives à...
En appliquant une méthode.
En appliquant une méthode, en appliquant aussi du test and learn, en appliquant aussi... des choses un peu créatives.
Qu'est-ce que tu penses de la gamification au niveau du sales? Je trouve que ça se perd, je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Et moi, une de mes philosophies, puisqu'on parle de philosophie, c'est que pour moi, la vente, c'est un jeu sur lequel je maîtrise les règles. Et donc, du coup, je sais m'amuser. Mais les règles, elles évoluent tous les jours. Donc, c'est-à-dire que tu es obligé de rester en contact du marché pour voir son évolution et continuer à t'amuser. Mais ce que je vois... au quotidien, c'est des gens qui ne s'amusent plus et qui prennent la vente, je vais faire un focus sur la outbound, comme un peu une tare. Le résultat, il est simple. Et toi qui as une expérience internationale, j'aimerais bien avoir ton avis. En France, cette SDR, par exemple, c'est soit c'est un passage obligé parce qu'il faut commencer d'en bas et monter, mais il faut vite monter à eux. Pourquoi, je ne sais pas. Mais être SDR, c'est quelque chose qui n'est pas très bien vu, ou en tout cas, c'est un peu le job que tu as envie d'éviter, mais sur lequel tu es obligé de passer si tu veux évoluer. Est-ce que, tu as cette même perception que moi du marché vis-à-vis de ce job-là, et quelle est la perception du marché à l'international, notamment aux US, par exemple, sur le job d'SDR?
Ouais, alors c'est passionnant notre discussion. Il y a plusieurs sujets dans le sujet que tu as dit. Il y a le côté fun. Donc, moi, je suis un adepte du fun. Je fais des challenges, je fais des incentives. Je te raconterai peut-être, si on a le temps, ce que j'ai fait quand je suis arrivé chez Corp. Mais voilà, j'ai amené toute mon équipe dans un hôtel 5 étoiles pour justement les rewarder sur ce qu'on avait accompli ensemble pendant 3 jours. Mais pour moi, donc, le rôle d'SDR, c'est le rôle le plus important à la fois pour les boîtes, mais à la fois pour les individus. En fait, ils n'ont pas conscience de la structuration que ça apporte et surtout du tremplin que c'est, en fait. Et donc effectivement, c'est mal perçu, c'est mal, souvent mal payé, et c'est souvent aussi, on va dire, sous-coté. Mais moi, j'étais SDR, donc je sais de quoi je parle. Et du coup, ça a été c'est grâce à ça que je suis aujourd'hui où je suis, en fait. Donc, j'ai conscience que cette structuration de 3 ans, qui est un peu le MBA du sales, m'a permis vraiment de bien comprendre, en fait, de maîtriser la chasse, de bien comprendre la vente. Et effectivement, je trouve que les SDR se pressent trop vite à être EI, parce qu'il y a une notion de statut, mais en fait, on s'en fout.
Ouais.
Ce qui est important, c'est quand tu es jeune, de bien être structuré, d'avoir le bon cadre pour grandir très vite.
Versus à l'étranger, du coup ?
À l'étranger, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le SDR, c'est vu comme un passage obligé, mais c'est mal vécu souvent, où la génération Y ou Z sont très impatients de venir EI. Mais EI, ce n'est pas le meilleur job. Et moi, quand je suis arrivé chez Corp, j'avais une EI qui n'était pas successful. Et en fait, mon premier réflexe, c'était de dire, écoute, sois SDR, reviens SDR. Donc au début, elle était pas très bien. Et c'est devenu la meilleure SDR l'année dernière de toute la boîte. Elle a fait 250% de ses objectifs.
Ouais,
et du coup, en fait, maintenant elle est EI, mais elle a bien validé cette étape-là. Et donc, elle est importante, cette étape-là. Elle est capitale et elle est structurante. Et je trouve que c'est une erreur pour les jeunes de vouloir la passer trop vite. Il vaut être le meilleur dans sa catégorie que le moins bon ou que le meilleur d'une catégorie moins bonne.
Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai ça. Le dernier round, je veux que ce soit un round voyage. Genre, on est vendredi, il fait beau. Et j'ai envie de découvrir, parmi tes expériences, Jérôme, quelles sont les anecdotes que tu peux nous raconter, notamment en Chine, au Japon, mais par rapport à la culture sales locale.
Okay.
Tu vois, et comment, à travers justement ta méthode, t'as pu être successful là-dessus?
Ouais, alors il y a beaucoup de choses à dire sur l'international et c'est passionnant, hein, mais c'est vrai qu'on sous-estime souvent la partie culturelle de la vente.
Ma passion, moi c'est ma passion, ma grosse passion dans la vente, c'est ça. Hein.
Et
c'est...
donc, j'ai commencé ma carrière en fait en étant dans une boîte qui vendait des composants électroniques et ils ne vendaient pas au Japon, donc j'ai fait un stage dans cette boîte-là. Et je suis allé voir mon CEO, je dis, mais pourquoi vous ne vendez pas au Japon? Le Japon, c'est un gros marché. Ouais, c'est compliqué, on s'est tous cassé les dents dessus. Je lui dis, voilà, moi, j'aimerais bien essayer. Et du coup, voir comment ça se passe. Il me dit, écoute, je te donne 6 mois. Et tu me dis, au bout de 6 mois, on voit ce qui se passe. Le premier mois, je me suis un peu cassé les dents sur le marché. Ils parlent tout japonais. Les horaires, c'est 8 heures de décalage horaire. Et donc, je me suis dit, voilà, je prends des cours du soir japonais intensif. Et en un mois, en fait, j'ai appris les bases de les bases un peu de politesse. Et donc, j'ai commencé à passer le premier filtre du standard. Et donc, j'ai eu les acheteurs en face. Donc, story short, au bout de 6 mois, le Japon était devenu le premier marché de la boîte. Et donc, avec des clients comme Sony, Toshiba, NEC. Donc, j'avais craqué, en fait, le fait qu'il fallait avoir la première barrière de la langue et la dépasser. Arriver à s'adresser aux bonnes personnes et finalement bien comprendre leurs enjeux et répondre à leurs besoins. Donc, ça a pris 3-4 mois, mais j'ai été reçu par un des présidents de Sony Corporation au Japon lorsque je suis allé 3 ans plus tard parce qu'on avait participé, on les avait aidés à gagner des parts de marché, etc. Donc, il y a toujours en fait un élément déclencheur dans les marchés. Comment tu arrives vraiment à comprendre l'élément déclencheur? Donc, plus le marché est dur, plus le potentiel est gros.
Et ça, l'élément déclencheur sur le Japon, c'est la première barrière?
Ouais.
Ok, donc c'est-à-dire que quand tu appelles, t'es toujours vu comme un étranger, parce que je sais qu'au Japon, si t'es pas japonais, tu restes un étranger. Mais tu as fait l'effort de t'intéresser à la culture japonaise. Donc en fait, finalement, je reviens sur ce que tu disais au début. Ta méthode, elle marche macro, elle marche micro, elle marche nano. Nano dans le sens... lorsque je dois créer une relation humaine, d'abord, je m'intéresse d'un point de vue macro à qui est cette personne, c'est quoi sa langue. Si je ne parle pas la même langue, en plus, il y a beaucoup de... Ils sont très patriotes, ouais. Très chauvins, les Japonais. Donc...
En fait, tu parlais de... Donc, c'est bien parce que c'est un peu la conclusion de notre discussion, mais tu parlais de... C'est quoi la bienveillance?
Ouais.
La bienveillance, c'est de s'intéresser aux autres. Mais quel que soit son statut, en fait. Je suis en face de toi, je suis bienveillant. Il y a Clémence à côté, ben, je m'intéresse à elle. Je m'intéresse aux gens, en fait, tout simplement. J'écoute. J'ai envie de les aider, j'ai envie de les aimer, j'ai envie qu'il leur arrive du bien, en fait. Et ça, ça ne trompe pas. Quand tu t'intéresses aux gens, quand tu fais l'effort de l'écouter, quand tu fais l'effort de comprendre ses enjeux, ses problématiques, qu'est-ce qu'il a envie, c'est quoi ses problèmes perso aussi. Hein. Moi, j'ai des clients qui ont des problèmes perso, qui m'en parlent. Ça fait partie de la vie.
Et tu n'as pas peur, justement, de créer... Après, on revient sur mon voyage, parce que ouais. Tu ne me fais plus voyager au Japon. Ouais. Et après, on revient sur mon voyage. Ouais. On voyagera en Chine ouais. Juste après.
Ouais.
Tu n'as pas peur, justement, de dépasser une certaine limite où tu n'es plus dans une relation pro, mais tu deviens un peu plus perso. Je ne dis pas que c'est bien ou mauvais, mais peut-être qu'à un certain moment, à un certain niveau, c'est un peu la friend zone, quoi.
En fait... Moi, je crois à l'écoute. Et si une personne a besoin de parler, eh ben, t'es là pour l'écouter. Et donc, pour moi, il n'y a pas de rôle. Je ne joue pas un rôle. D'ailleurs, le business, c'est quelque chose d'intemporel. D'aujourd'hui, je suis dans cette boîte. Demain, je suis dans une boîte. Le client change de boîte. Donc, il y a une notion de confiance. Et cette confiance-là, tu l'as créée par la bienveillance, par l'écoute, par la volonté de construire une histoire ensemble et la volonté aussi de faire le job. C'est si la personne te donne sa confiance, eh ben, tu ne vas pas la trahir et tu ne vas pas justement... mettre en place une solution qui ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément de l'intimité, mais c'est de la confiance. Donc.
Cette erreur, elle est faite par énormément de sales, moi, je trouve. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus une personne en face, mais ils voient un portefeuille. D'où le fait de dire « je veux bosser avec des grands comptes ». Pourquoi tu bosses avec des grands comptes? Ben, c'est eux qui ont le budget. Donc, on s'intéresse.
Je vais te donner un exemple.
Ouais.
On a gagné un très gros deal en Q4. Enfin, ouais, Q4. Et en septembre, j'ai mon sales qui vient me voir, qui me dit : Tu sais, Jérôme, sur ce deal-là, le partenaire, il pousse une autre solution qui est deux fois moins chère que la nôtre. Il me dit voilà, je suis déprimé. Je lui dis : Écoute, sois pas déprimé. Regarde le client. Ne t'occupe pas du reste. On ne le maîtrise pas. Écoute son besoin. Écoute ses enjeux. Écoute. Ce qu'il a besoin de voilà, en termes d'achievement, focalise-toi que sur lui. Et on a gagné le projet à 300K d'ARR, en étant deux fois plus cher que le concurrent, en n'étant pas poussé par partenaire. Et donc, ça veut dire que quand le client a vraiment envie de l'aider, en fait, il le sent. Il le sent et il sent que tu vas répondre à son besoin. Donc, souvent, et je te rejoins, souvent les sales, non seulement ils prennent les clients pour du bétail, mais ils pensent que le prix fait la différence. Ils se trompent.
C'est souvent une erreur du management, je trouve. Parce que si le management, plus haut, était plutôt orienté customer-centric en disant « intéresse-toi effectivement aux besoins de ton client, il y a trois types de besoins, gain de temps, gain ou économie de temps, d'énergie ou d'argent, et comment on va pouvoir répondre à cette problématique en fonction du décisionnaire qu'on a en face », je pense qu'on aurait des pitchs et des approches, des discours beaucoup plus... précise et adaptée.
Tu as raison, et je serais un peu sévère sur beaucoup de directeurs ou de patrons, c'est-à-dire très centré produit, très centré boîte, très centré j'ai réussi, j'ai levé tant d'argent, en fait, non. En fait, c'est quoi la valeur? Et donc, tu as raison. Je pense que c'est comment tu arrives en tant que patron à définir la vision, la mission et la valeur, et que tu la souffles à tes équipes. Mais si tu parles de features, si tu parles de produits, si tu parles de tools, bah le sales, il va parler de tools. Donc, on revient un peu à la discussion de départ, c'est-à-dire comment t'empower les sales, bah, tu donnes les moyens de réussir. Et les moyens, c'est la philosophie, le mindset, les outils, la valeur.
Et l'improvement. Parce qu'effectivement, si on reste là-dessus, pour moi, ça reste un peu bisounours dans le sens bon, bah, s'il ne fait pas ses objets, on va voir comment elle faire évoluer. Mais...
Et l'improvement continue. Oui, oui, donc oui. C'est ça en fait. C'est l'improvement, il est intemporel et il est perpétuel. C'est-à-dire que on est dans une société de mouvement où les cycles se sont énormément réduits. On est passé de 15 ans de cycle à 10 ans dans les années 90, à 5 ans dans les 2000, à maintenant 3 ans. Donc tous les 3 ans, il y a des mini-révolutions qui challengent ton business. Donc tu n'as plus le choix que d'être agile. On parlait d'agilité. Si tu n'es pas agile, c'est fini.
T'es mort.
Donc,
ouais, c'est ce que
c'est ça en fait, ouais. C'est que c'est plus un choix, c'est une nécessité. Et c'est pour ça que mieux vaut l'anticiper, mieux vaut l'embrasser que de la subir.
Nickel. Bah, nickel. Bah, on a fini le cinquième round. La question qui met KO, bienveillante de préférence. Je rigole, c'est ce que tu veux.
Moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est de solutionner des moutons à cinq pattes.
Ouais.
Donc, c'est ma passion, c'est un peu la valeur que j'ai et c'est là où je cultive ma différence. Toi, tu es serial entrepreneur, tu as monté deux boîtes, tu as fait deux exits. Comment tu mets la barre haute et comment tu fais en sorte justement de ne pas te reposer sur tes lauriers et de ne pas justement être dans une zone de confort que tu pourrais être. Voilà,
ouais. Ok. C'est une très bonne question.
Je punch.
Ouais, non, c'est une très très bonne question. Je pense que je suis incapable de rester statique. Je pense que mon objectif est toujours de rester dans le game et de m'améliorer en continu pour comprendre comment le marché évolue et répondre aux besoins du marché, tout en étant aligné avec ce que moi je veux dans ma vie. Et je pense que le plus compliqué, c'est ça, c'est de réussir à trouver un juste milieu entre moi, ce que je veux, la vie pro que je veux et la vie perso avec ma famille que je veux. C'est ça le plus important. Et en tant que serial entrepreneur, effectivement, c'est commencer à créer des boîtes. Ma prochaine boîte, d'ailleurs, c'est ça. De créer une boîte dans laquelle je ne suis plus aliéné par ma boîte ni mes salariés, mais j'épouse ma vision et j'arrive à leader mes salariés vers cette vision-là également, sans les perturber. Et je pense que c'est le gros problème que j'avais avant, c'est-à-dire j'ai une vision, faut tracer là-dessus, et voilà. Et en fait, faut bosser. L'avenir, il n'est plus là-dessus, il n'est plus là. L'avenir, en fait, ce que j'ai compris, c'est que chaque jour, je dois m'améliorer un petit peu plus. Chaque jour, je dois comprendre comment le monde il évolue. Chaque jour, je dois comprendre la vitesse à laquelle la technologie arrive et comment j'adapte tout ça pour répondre à un besoin précis du marché présent, en anticipant un petit peu plus derrière et bien s'entourer. Tu vois, je travaille avec des gens aux US pour comprendre. Je gagne du temps, en fait. Tu vois, ce qui se passe là-bas, ils ont 6 ans d'avance. Donc, à peu près, un peu moins maintenant, mais on va dire entre 3 et 6 ans d'avance, notamment sur la manière, sur le consulting, et comment la vision qu'ils ont du consulting, des indépendants également, tu vois, par rapport à l'IA,
ouais.
Il y a beaucoup de choses à prendre également en compte. Et mon vœu, c'est de rester actif tout en étant dans le game et en m'amusant. J'espère que j'ai répondu à ta question.
Non, et c'est un vœu pieux. Et en fait, je repensais à ce que tu disais sur les US. Donc les US ont beaucoup d'avantages et beaucoup d'avances, mais en France, on a des super technos, on a des super ingénieurs, on a des super idées. En fait, c'est juste qu'on ne les market pas super bien et en fait qu'on ne comprend pas les choses de la bonne manière d'un point de vue sales. Et le sales est souvent, je ne dirais pas le parent pauvre, mais est souvent sous-estimé, sous-côté et pas assez intégré. Il n'y a pas beaucoup de sales dans le conseil d'administration.
Bien sûr, la culture sales en France, elle est... On est pris pour des clowns. Le problème est là. Le problème, c'est que aux US, ouais. les sales, ils sont considérés. Quand nous, aujourd'hui, en France, on est obligé de cacher notre identité, entre guillemets, avec des experts en ça, je vous accompagne en ci. Mec, en fait, tu dis ce que tu veux, t'es commercial, tu vois. Et il n'y a plus cette fierté du commerce parce que le commerce est pris pour soit un menteur, et il y en a. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais dans la tech, en tout cas, ça va de plus en plus vers de la méthodologie et même en fait en offline, tu vois, et genre il faut une méthodo.
Méthodologie et simplicité.
Exactement.
Et simplicité.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, j'accompagne des boîtes, là, notamment des centraliens sur un projet. Et en fait, ils sont super intelligents, ils sont brillants, mais en fait, ils ont une approche business qui est complexe. Et en fait, la simplicité, en soi, c'est complexe d'être simple.
Je crois qu'il y a rien de plus complexe.
Donc, comment tu arrives en une phrase à expliquer 10 ans de boulot? Mais en fait, c'est ça.
Répondre à un besoin.
C'est ça la synthèse, en fait. Et c'est comment tu arrives, en fait, à expliquer ton concept à quelqu'un qui ne connaît rien de ce que tu fais, mais qui va, in fine, décider d'acheter ou pas. Et donc, si j'ai un petit talent, c'est ça, en fait. C'est de prendre quelque chose de complexe, de le rendre simple et de le scaler. Et donc souvent, l'ennemi des boîtes, c'est plus les boîtes elles-mêmes que le contexte, que le client, que le secteur, que les concurrents. Parce qu'en fait, s'ils sont complexes dans leur tête, ben, ils auront du mal à être simples.
Si je le ramène à ta méthode, et je pense qu'on finira dessus, c'est pareil en fait pour l'humain.
Le
premier frein à l'humain, c'est lui-même.
Pareil.
Donc tu peux être soit ton meilleur ami, soit ton pire ennemi.
Absolument.
Soit ton meilleur ami. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu.
Merci à toi, Cériel.
Merci d'avoir partagé ta philo. T'as vu, on n'a rien tenu de ce qu'on avait dit. Hein.
Absolument.
Tu m'as dit.
C'est ce que je voulais freestyle, mais du coup, voilà, c'est la magie de la vie. C'est, voilà, on ne prend pas la tête, on s'amuse et aussi, on a conscience que chaque jour est un cadeau. Le fait qu'on soit vivant et qu'on soit en bonne santé, c'est un cadeau.
Exact.
Donc, il faut aussi apprécier le quotidien.
Exact. Enjoy.
Merci.